Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Biologie » de Neil Campbell. Dans son édition française parue chez Pearson, est un manuel universitaire de synthèse consacré à l'étude du vivant, de l'échelle moléculaire à celle de la biosphère. Conçu d'abord pour les étudiants en sciences de la vie, il associe l'ampleur d'un ouvrage de référence à une progression didactique structurée. Ces quelques 50 chapitres sont répartis en 8 ensembles qui abordent notamment la chimie du vivant, la biologie cellulaire, la génétique, l'évolution, la diversité des organismes, les physiologies végétales et animales, puis l'écologie. Le projet central ne consiste pas seulement à présenter des connaissances établies. Le livre cherche aussi à faire comprendre comment les biologistes construisent, testent et révisent leurs explications. Les schémas, illustrations et séquences explicatives servent ainsi à relier structures, mécanismes et conséquences observables. Cette ambition intégratrice explique la place durable du Campbell dans l'enseignement de la biologie générale, tout en exigeant du lecteur une lecture active et méthodique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une organisation du vivant qui relie molécules, cellules, organismes et écosystèmes. La force structurante de biologie réside dans son parcours à travers les niveaux d'organisation du vivant. Le livre commence par la chimie de la vie, car les propriétés de l'eau, des macromolécules et des réactions métaboliques conditionne l'activité des cellules. Il passe ensuite à la cellule, unité fondamentale capable de maintenir une organisation, d'échanger de la matière et de l'énergie, et de se reproduire. La génétique explique alors comment l'information héréditaire est conservée, exprimée et transmise. Cette progression évite de traiter la biochimie, la physiologie ou l'écologie comme des matières isolées. Un phénomène biologique acquiert du sens lorsqu'il est examiné à plusieurs échelles. La photosynthèse, par exemple, engage des molécules, des organites cellulaires, un fonctionnement végétal et des effets sur les flux d'énergie des écosystèmes. De même, les caractéristiques d'un organisme dépendent à la fois de son génome, de son développement et de son environnement. Cette architecture aide le lecteur à ne pas réduire la biologie à un inventaire de termes. Elle entraîne à chercher les liens de causalité entre niveaux, tout en rappelant qu'une explication valable à une échelle ne suffit pas toujours à rendre compte d'un phénomène à une autre échelle. Deuxièmement, l'évolution comme principe explicatif de l'unité et de la diversité du vivant, l'évolution occupe une fonction transversale dans le manuel plutôt qu'un simple chapitre spécialisé. Elle fournit le cadre qui permet de comprendre simultanément les ressemblances fondamentales entre les organismes et l'extraordinaire diversité de leurs formes, de leurs fonctions et de leur mode de vie. Les mécanismes évolutifs, notamment la variation héréditaire, la sélection naturelle et les changements affectant les populations au cours du temps sont donc reliés à la classification du vivant et à l'histoire des lignées. Cette perspective empêche une lecture finaliste des adaptations. Une structure biologique n'est pas présentée comme une solution conçue en vue d'un but, mais comme le résultat historique de variations soumises à des contraintes et à des conditions environnementales. L'anatomie comparée, les parentés entre espèces et l'étude de la biodiversité deviennent alors des sources de preuves et non de simples catalogues. Le traitement de l'évolution permet aussi de relier génétique et écologie. Les modifications de fréquence génétique se produisent dans des populations réelles, soumises à la compétition, aux interactions biologiques et aux changements du milieu. Le livre donne ainsi à l'évolution un rôle d'explication unificatrice, indispensable pour interpréter les autres domaines de la biologie avec cohérence. Troisièmement, la démarche scientifique présentée comme pratique de preuve et de révision, biologie insiste sur le fait que la science n'est pas un ensemble définitif de résultats, mais une pratique d'enquête. Cette orientation est particulièrement importante dans un manuel généraliste, où l'abondance des connaissances peut donner l'illusion que les concepts sont séparés de leur mode de production. Le lecteur est invité à distinguer observations, questions, hypothèses, prédictions et confrontations aux données. Une hypothèse scientifique ne vaut pas parce qu'elle paraît intuitive, mais parce qu'elle peut être mise à l'épreuve et comparée à des explications concurrentes. Le livre souligne également la portée des modèles, des expériences contrôlées, des représentations graphiques et de l'analyse critique des résultats. Ces outils ne remplacent pas le raisonnement biologique, ils le rendent plus explicite et vérifiable. Les dispositifs pédagogiques consacrés aux questions et aux habiletés visuelles prolongent cette approche en demandant d'interpréter des schémas, des données ou des processus. Les entretiens avec des biologistes reconnus ajoutent une dimension humaine à cette présentation en montrant que les choix de recherche, les débats et les révisions font partie du travail scientifique. Le manuel forme ainsi à l'usage des connaissances autant qu'à leur mémorisation. Compétences utiles pour poursuivre des études expérimentales ou évaluer des affirmations biologiques dans l'espace public. Quatrièmement, la cellule et le gène comme charnière entre mécanismes moléculaires et fonctions biologiques. les parties consacrées à la cellule et au gène constituent la charnière conceptuelle de l'ouvrage. La cellule y apparaît comme un système organisé, délimité par une membrane, capable de réguler ses échanges, de transformer l'énergie et de coordonner de nombreuses réactions. L'étude des structures cellulaires ne se limite donc pas à identifier des organites. Elle met en relation compartimentation, circulation des molécules et spécialisation des fonctions. La génétique prolonge cette logique en montrant comment l'information portée par les gènes intervient dans l'hérédité et dans la production de molécules nécessaires au fonctionnement cellulaire. Cette articulation est décisive pour comprendre pourquoi un même organisme peut comporter des cellules différenciées, ou comment des variations de l'information génétique peuvent avoir des effets sur les caractères. Le livre conduit progressivement du support moléculaire de l'hérédité aux mécanismes d'expression et de transmission, sans confondre gènes, caractères et environnement. Il offre ainsi des repères pour interpréter avec prudence les discours simplificateurs sur le déterminisme génétique. Les processus cellulaires et génétiques sont présentés comme interdépendants, inscrits dans un contexte physiologique et environnemental. Pour un étudiant, cette approche facilite le passage entre vocabulaire moléculaire, observation microscopique et raisonnement sur les organismes entiers. En dernier lieu, physiologie comparée et écologie pour penser les interactions plutôt que des organismes isolés, les sections sur les végétaux. Les animaux et l'écologie élargissent l'analyse vers les fonctions intégrées et les relations entre êtres vivants. L'anatomie et la physiologie ne sont pas réduites à une description d'organes. Elles examinent comment les structures permettent des échanges, une régulation interne, la nutrition, la reproduction ou la réponse aux conditions du milieu. La comparaison entre grands groupes aide à comprendre que des fonctions similaires peuvent reposer sur des organisations différentes, héritées d'histoires évolutives distinctes. La place accordée aux végétaux est importante, car elle rappelle que leur immobilité apparente recouvre des systèmes complexes de transport, de croissance, de communication et de réponse environnementale. L'écologie complète ce tableau en déplaçant la question vers les populations, les communautés, les écosystèmes et la biosphère. Les organismes y sont étudiés à travers les flux d'énergie, les cycles de matière et les interactions telles que la prédation, la compétition ou les relations de dépendance. Cette dernière perspective relie les mécanismes biologiques aux enjeux collectifs de la biodiversité et des transformations environnementales. Elle montre surtout que la survie et le fonctionnement d'un organisme dépendent rarement de ses seules propriétés internes, mais aussi de réseaux d'interactions et de contraintes écologiques. En conclusion, Biologie de Campbell s'adresse en priorité aux étudiants de licence en sciences de la vie, aux élèves de classe préparatoire et aux personnes qui ont besoin d'une base large avant une spécialisation en biologie, agronomie, environnement ou enseignement. Il peut également servir à un lecteur non spécialiste déjà disposé à suivre un manuel dense et à apprendre un vocabulaire précis. Son bénéfice pratique est de fournir une carte cohérente des grands domaines de la discipline, utile pour réviser, relier des cours distincts et identifier les notions qui demandent un approfondissement. Son bénéfice intellectuel est plus large, il apprend à interpréter le vivant par des mécanismes, des preuves et des relations entre échelles, plutôt que par de simples définitions. Par rapport à un ouvrage de vulgarisation, il conserve une rigueur et une couverture qui permettent un véritable travail universitaire. Par rapport à des manuels très spécialisés, il se distingue par son effort constant de mise en relation entre biochimie, génétique, évolution, physiologie et écologie. Ses illustrations renouvelées, ses outils de lecture visuelle et l'attention portée à la démarche scientifique renforcent cette fonction pédagogique. Sa grande étendue impose toutefois de compléter certains chapitres par des cours, exercices et ressources plus pointues, notamment dans les filières médicales ou de recherche avancée. C'est précisément comme socle général, structuré et explicatif que le Campbell demeure une référence particulièrement solide. Si vous souhaitez soutenir Neil Campbell, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.